Parce que je voudrais suivre vraiment son analyse très en détail. Il veut dire que par toute une série de citations de versets, où ces animaux sont mis en jeu en tant qu'animal, comme image, symbole de telle ou telle tendance de la personne humaine, du nefesh humain, ou telle ou telle, comment dire, fonction de la personne humaine, alors on s'aperçoit qu'effectivement, ce que nous appelons le sechel, l'intelligence, et qui va éclater, s'épanouir dans le génie grec, eh bien, est représenté dans la symbolique d'une amère, du tigre. Mais vous verrez d'ailleurs, au fur et à mesure des études, que très souvent ces figures animales reviennent, le lion, l'ours, etc. Et puis il y a toute une correspondance de symbolique, un peu dans une science qu'on appelle la héraldique. Le fait que les nations ont une certaine obsession de se retrouver dans telle ou telle figure d'animal. Alors ça revient comme une espèce de structure, de mécanisme d'un langage de l'histoire. Et après tout, pourquoi la France se reconnaît dans le coq? Pourquoi l'Amérique se reconnaît dans l'aigle? Les symboles qui se choisissent. Bon, c'est une science pour elle-même, qui s'est perdue finalement, mais qui est très proche de la tentative contemporaine de déchiffrement de la science des rêves, des symboles dans les rêves. Vous avez, je ne sais pas comment dire, il y a une cohérence qui ne nous est pas perceptible dans la culture telle que nous la connaissons, mais que c'est évidemment pas pour rien que telle ou telle manière d'être homme se reconnaît à travers un totémisme à l'échelle nationale dans telle ou telle façon d'être vivant de l'animal. Vous comprenez le problème? Bon, peut-être que à propos de telle ou telle... Mais j'étais beaucoup frappé de cela, que très souvent, dans ces paraboles du Midrash ou du Talmud, reviennent ces figures. On risque de rencontrer le lion, et après avoir rencontré le lion, on risque de rencontrer l'ours. Et après avoir rencontré l'ours, on risque de rencontrer le tigre. Ou après avoir rencontré le tigre, on risque de rencontrer le serpent, avec Renala. Okay? Bon, pourquoi l'Empire britannique s'est choisi le lion? Pourquoi la Russie, c'est l'ours? L'ours. Okay? Mais ça, il doit y avoir des raisons. Okay? Enfin, c'est à peu près dans ce genre de... Dans ce genre de cohérence. Et alors c'est, pour terminer de répondre à ta question, c'est de façon très précise que le Maharal établit cette correspondance de la fonction, de la faculté qui est représentée dans l'image de tel ou tel animal par rapport à telle ou telle faculté de la personne humaine. Alors, son exposé est très important parce qu'il nous dit que c'est l'identité de l'homme en tant que créature qui a distribué son génie de civilisation à travers les grandes civilisations en dominant. Et lorsqu'on étudie à travers, bien entendu, les critères de la tradition juive, de la tradition hébraïque, ce qu'est la civilisation de Babel, on voit qu'il y a là surtout l'affirmation de la puissance matérielle. Ce qu'est la civilisation de Paras ou Madaï, c'est surtout l'affirmation de la puissance biologique, de la force biologique. Ce qu'est la civilisation de Yavan, c'est surtout la puissance intellectuelle. Ce qui est la dominante de la civilisation de Rome, c'est la récapitulation de ces trois-là, et avec la prétention d'affirmation de la puissance de l'esprit, d'où cette religion de Rome qui se prétend être Israël. Vous voyez à peu près la correspondance, et qui a un symbole très précis, le juif au centre de la croix. Vous voyez, les quatre coins. Okay. Et alors, le Maharal en particulier va nous donner une indication qui peut nous permet d'avancer dans cette analyse. Il nous dit ceci, par exemple, on voit très bien que à Purim, dans ce qui nous est raconté à Purim, la Perse a voulu annihiler physiquement les Juifs au niveau de leur corps, annihiler l'identité corporelle des Juifs, alors que ce n'était pas le cas des Grecs. Les Grecs laissaient la nation juive, judéenne, vivre en tant que corps, mais elles voulaient dénaturer son âme, son esprit. Il projetait l'intelligence grecque à la place de l'âme juive. Est-ce que c'est clair? Le conflit était à ce niveau-là. Les Grecs n'ont pas voulu détruire la nation juive. Et la révolte n'a pas été quand on avait perdu l'indépendance politique. La révolte, parce que même si on avait perdu l'indépendance politique, les Grecs occupant le pays, eh bien, la nation juive restait la nation juive, même opprimée. La révolte a commencé quand les Grecs ont décidé de dénaturer l'âme juive. Alors là, les Hashmonaïm, les Maccabis se sont révoltés. Vous avez compris la différence. À Pourim, ce qui était en danger, c'était l'existence physique des Juifs. La décision de Haman. Il réagit au niveau de la Perse, au niveau de la force biologique. Okay. Tandis que à Hanouka, ce qui était en jeu, c'est l'existence spirituelle de l'identité juive, pas son existence physique. On laissait vivre les Juifs, à condition qu'ils se hellénisent. Un peu ce qu'il y a au temps de la Révolution française. Vous, les Juifs, on ne vous touche plus, mais devenez des Français. Assimilez-vous. Un peu dans cet ordre-là. Eh bien, alors je vais prendre une des questions à ce propos. Tu veux demander quelque chose?
Est-ce que la raison pour laquelle le conflit entre l'Iran et la Grèce, plutôt au niveau de l'intelligence, à une époque où la prophétie n'existe plus en Israël, et peut-être pour permettre à Israël de récupérer les thèmes de la prophétie qu'elle n'a pas assimilé au niveau de l'intelligence, c'est-à-dire une sorte de psychologie?
Non, c'est-à-dire, voilà, tu parles d'une des possibilités de récupération dans les conséquences de l'état de choses. Mais ce qu'il faut d'abord découvrir, c'est qu'il y a un parti pris de Yaval en tant que tel d'annuler l'identité spécifique d'Israël et de la remplacer par l'humanisme grec. Et alors, la nation juive serait une des provinces de l'Empire grec. Alors, on va vous laisser votre religion, à condition qu'il n'y ait plus rien qui véhicule une spécificité nationale qui était la spécificité nationale hébraïque, parce que la spécificité nationale hébraïque véhicule un génie qui lui s'oppose à la vision de l'intelligence. Alors, ceci dit, que à travers ce risque de catastrophe, la mise en contact avec ces Grecs qui voulaient annuler l'identité juive est permis, en quoi que ce soit, une récupération des contenus de l'intelligence grecque, c'est une conséquence seconde de récupération. Non, mais le problème... Comment ? Non. C'est-à-dire, nous n'avions pas besoin des contenus de l'intelligence grecque pour pouvoir continuer la pérennité, la fidélité des contenus de la névoie à travers l'intelligence juive. Et je vais vous dire jusqu'où ça va. En prenant simplement l'exemple du conflit de ces deux diasporas qui se sont prétendus Israël en conflit pendant 2000 ans, après, dans le stade de Rome, c'est-à-dire la chrétienté et la diaspora juive. Quelle était la différence? Eh bien, la différence, c'est que la diaspora juive, c'est une diaspora d'Israël qui restait fidèle au véhicule culturel des Hébreux, alors que la diaspora chrétienne, que la chrétienté en tant que diaspora d'Israël, si vous voulez, a rompu avec le véhicule culturel des Hébreux et a opté pour le véhicule culturel gréco-latin. Or, ce véhicule culturel des Hébreux était celui qui avait été élaboré dans l'Empire perse. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire le contenu intellectuel en tant que véhicule de la tradition juive talmudique, il est de Babel. Et la différence entre un chrétien et un juif, finalement, c'est précisément la culture du temps de Babel et de Paras et Mataï à laquelle les juifs sont restés fidèles, ou la culture gréco-romaine pour laquelle les chrétiens ont opté. Et c'est pourquoi, en particulier sur un point précis dont nous avons parlé un jour sur un autre problème, le conflit entre les pharisiens et les sadducéens, portez là. Les pharisiens sont restés fidèles au véhicule culturel de la diaspora antérieure, qui était le génie de Babel, alors que les sadducéens ont opté comme véhicule culturel celui de Yaval. Et ils se sont perdus avec Yaval. Et d'ailleurs, c'est un danger qui est très contemporain dans la société israélienne. C'est-à-dire que de donner comme véhicule culturel à l'identité juive hébraïque retrouvée, le contenu gréco-latin. C'est ce qui se passe à l'université. Alors qu'à la yeshiva, on reste fidèle au contenu araméen. Oui. Par conséquent, il n'était pas nécessaire de passer par l'hellénisation pour pouvoir être en relation avec le niveau de l'intelligence universel, même dans son apogée grec. Je dis bien, même dans son apogée grec. Alors, quelle était ta question?
Je veux dire que vous permettez de faire un béro de nous-mêmes, faire une testation de nous-mêmes, de mieux nous comprendre.
Donne-moi un exemple.
Non, je pense que tout ce qui vient contre Israël, ça peut avoir un double tranchant. Ça permet à Israël aussi de mieux se comprendre, puisque ce qui est en face de nous, c'est ce qui nous regarde.
Écoute, je vais te dire, tu as certainement une arrière-pensée derrière qui n'est pas explicitée. Dis plus ce que tu veux dire. Non, parce que ça, je ne sais pas comment te dire, c'est le chemin indirect. Je reprends les schémas de Joshua tout à l'heure. C'est-à-dire, il est bien évident que, et ensuite je vais l'illustrer par un exemple très précis de notre problème. Il est bien évident que cela a été de l'ordre du génie grec de développer les véhicules, les catégories de la logique, de la mathématique comme langage des sciences, etc. Et puis, c'était de l'ordre du génie d'Israël de sanctifier cela, de dévoiler ce qu'il y avait de divin, pour reprendre le vocabulaire de Joshua. Mais ce qui s'est passé en réalité, tout à fait autre. C'est que ce génie grec a voulu annuler la position d'Israël à ce niveau de l'intelligence, parce qu'elle a diagnostiqué comme incompatible et antinomique, et lui substituer à titre d'Israël même le contenu de l'intelligence grecque. C'est le processus de l'hellénisation qui a finalement abouti à la société sadducéenne, qui a disparu avec le temps grec. Mais la tendance à cela n'a pas disparu. Je veux dire, et bon, je vais rentrer un peu plus concrètement dans le problème, et actuellement, c'est surtout en Israël même qu'on sent le fait que ce débat, ce combat n'est pas achevé. Et je vais prendre tout de suite un des problèmes sur lesquels on peut démarrer, s'il n'y a pas d'autres...
Comment vous pouvez situer cette entre justement cette mathématique et cette...
Voilà. Eh bien, Pythagore... Ça fait encore partie de ce temps de la sagesse avant la philosophie dont je vous parlais. Et finalement, la Grèce n'a pas choisi pour Pythagore, elle a choisi pour Aristote. Et le conflit, ce n'était pas avec Pythagore. Pythagore, c'est l'autre sagesse, celle qui est propre à la société grecque. Comme ailleurs, dans d'autres sociétés, il y avait d'autres sagesses de ce type qui se sont perdues. Pythagore, on s'en est rappelé parce que des traces sont restées. Et tandis que le conflit n'était pas avec Pythagore, le conflit était avec Aristote. Est-ce que c'est clair? Bon, nous savons pas encore suffisamment de choses pour que ça soit plus simple pour moi pour faire allusion par allusion, donc je dois essayer de définir sans allusion, enfin de dire des choses de façon précise, c'est pourquoi je suis obligé d'aller lentement. Alors, je vais partir d'une des questions qui se posent à propos de Hanouka. Bon, pourquoi l'histoire de Hanouka n'a jamais été mise par écrit? On va partir de là. Alors je vais d'abord analyser et diviser la question. Que nous n'ayons pas un livre qui parle de cette histoire, qui nous raconte cette histoire dans le Tanakh, dans la Bible, bon, il y a une raison historique très simple. C'est que le canon biblique, l'ensemble des livres du Tanakh, a été clôturé bien avant. Le dernier des livres mis par écrit, c'est la Megillat Esther qui est le récit de l'histoire au temps de Pourim. Okay? Par conséquent, il ne faut pas s'attendre à trouver un livre dans la Bible qui parle des Maccabées. Il y a un livre qui s'appelle les Maccabées, mais c'est un livre apocryphe qui ne peut pas être considéré comme faisant partie du canon biblique. Et donc là, la réponse finalement est assez simple à ce niveau. Mais la question rebondit, c'est qu'on ne trouve pas de traité du Talmud traitant de Hanouka. Et alors là, la question se formule ainsi, pourquoi dans la tradition orale mise par écrit, pour les raisons pour lesquelles elle a été mise par écrit, c'est un autre problème, on ne trouve pas de mise par écrit de l'histoire de Hanouka. Bien sûr, on parle de Hanouka, mais ça et là, derech agav, en parenthèse, en parlant d'autre chose. Par exemple, j'aurais donc tout à l'heure à vous citer quelques lignes qui se trouvent dans un chapitre du traité de Shabbat. Et en parlant des lumières du Shabbat, par association, on va parler aussi des lumières de Hanouka, mais en passant. C'est-à-dire que c'est noyé dans d'autres sujets. Mais il n'y a pas de corps, de livre en tant que corps constitué qui traite de Hanouka. Alors je vous donnais, à ce niveau-là de la question, deux ordres de réponse. Et ça nous permettra par ce biais de revenir à notre problème théorique de tout à l'heure. Une réponse qui a été donnée, et qui a été enseignée dans les temps contemporains par un grand savant, un grand rabbin qui s'appelle Rav Margaliot, on cite ses sources d'ailleurs dans la tradition, c'est lui qui a mis en forme un peu ce dont je vais vous parler maintenant, c'est ceci. C'est que la Mishnah a été rédigée au temps de l'occupation romaine. Et les Romains avaient interdit d'abord les Grecs et ensuite les Romains, tant les uns que les autres avaient pris des édits, enfin des décisions, des édits, des xérotes, hein, pour interdire un certain nombre de manifestations de la vie juive. Mais c'est précisément celle qui concernait les signes visibles de l'appartenance nationale. Chaque fois qu'il pouvait s'agir d'une conduite qu'on pouvait définir comme religieuse par analogie aux autres religions des autres peuples, que ce soit les Grecs ou les Romains, on disait ça c'est notre religion, ça c'est la vôtre. Mais chaque fois qu'il y avait des signes visibles de différenciation nationale, du point de vue des mitzvot de la Torah, alors c'était dangereux et interdit. Bon, c'est pas sur ce type d'explication que je vais m'apesantir, mais je vous le cite en passant parce que c'est important pour elle-même. Par exemple, on ne trouve pas de traité traitant des tzitzit. On ne trouve pas de traité traitant des tefillin. Et on ne trouve pas dans la Mishnah d'allusion au temps messianique, alors qu'on trouve des allusions au monde à venir. Olam Haba, oui, les Romains ont permis. Olam Haba, le monde transfiguré, c'est pour tout le monde. Tandis que le Messie, ça a déjà un fumet national. Hein, ça y vient pour les Juifs. Alors ça, c'est interdit. Et Hanouka, c'est l'illumination visible. On met la Hanouka devant la fenêtre, ça se voit de dehors, d'un événement d'avoir retrouvé l'indépendance nationale. Ça, c'est interdit. Vous voyez à peu près le livre. Ça, nous réétudierons ce problème sur la signification des mitzvot et nous verrons que quel est l'enseignement de la Torah à ce sujet, que la dimension principale de ce que la Torah dit explicitement de l'objectif des mitzvot, c'est de nous assurer notre intégrité nationale. Alors bien sûr, il y a une dimension de signification religieuse. C'est que de celle-là qu'on parle aux goyim. Parce que si on leur parlait de la signification d'ordre national, ils n'accepteraient pas. Prenez par exemple la situation actuellement dans la civilisation contemporaine. Eh bien, il y a la liberté de culte, la liberté de pensée, donc on a le droit d'avoir des synagogues. On a le droit d'avoir des Talmud des Torah, des cimetières juifs, etc., parce qu'on donne une explication religieuse. Bon, les goyim ont leur religion, et puis donc, au niveau d'un certain type d'humanisme, eh bien, les juifs auront leur religion. Ça, c'est kasher, la religion. Mais dès qu'on découvrirait que les comportements des mitzvot ont une signification hébraïque de spécificité nationale, ça, c'est interdit. Par exemple, si certains d'entre vous ont encore vécu dans les pays d'Afrique du Nord après l'indépendance, vous savez très bien que tout ce qui était juif dans le sens religieux est permis, mais dès que ça peut représenter une signification nationale, c'est interdit. En Tunisie, au Maroc, quelqu'un a encore vécu après l'indépendance là-bas. Donc, le dernier exemple, maintenant, c'est par exemple en Iran, vous voyez ça dans les journaux tous les jours. Dernier exemple que j'ai eu, c'était à mon dernier voyage en Turquie, qui est un pays laïque dans sa constitution, mais où il y a une certaine tolérance de culte pour les chrétiens, pour les musulmans eux-mêmes, etc. Et donc aussi pour les juifs, ma condition que tout ce qui est juif, ça soit évidemment religieux. Dès que des comportements religieux pourraient faire penser à une appartenance nationale, ça devient interdit et dangereux. Et les juifs de Turquie actuellement, enfin mon dernier voyage c'était à peine il y a 3 ans, donc c'est encore récent, vivent exactement comme des maranes et vous n'avez aucune idée à quel point. Par exemple, les rabbins interdisent qu'on fasse des cours d'hébreu dans les synagogues. Parce que les cours d'hébreu, ça pourrait être la langue nationale de l'État d'Israël. Et donc, il n'y a pas de cours d'hébreu dans les synagogues. Il y a des cours d'hébreu sionistes, mais dans la clandestinité, dans la cave du chaliar clandestin d'ailleurs, comme ça se fait en Russie, par exemple. C'est à peu près le problème. Interdit de sortir dans la rue avec une kippa bleue et blanc. Parce qu'une kippa bleue, une kippa, c'est religieux, mais bleu et blanc, ça c'est national. Et on dessine pas un chandelier. Quoi, le chandelier, c'est le candélabre du temple. Pas du tout, c'est l'emblème de l'État d'Israël. Vous voyez, à ce niveau-là, interdit. Il faut que vous découvriez ces choses-là. C'est clair. Par exemple, si... je sais pas comment dire... dans une cérémonie, dans une synagogue en France, et où on inviterait les autorités de l'État, alors il faut chanter la Marseillaise. Et mais si on chante la Tikva, il faut surtout leur dire que c'est un chant religieux. Parce que si c'est l'hymne d'une autre nation, ça ne marche pas. Vous voyez ce qu'il y a caché derrière. C'est clair, je pense. Et alors, comme c'est en hébreu, ils y voient du feu, mais un jour, ils pourraient s'en rendre compte. Là, ils croient que c'est une prière. Ils ne savent pas que les prières, c'est des chants nationaux. Et alors, là... Et donc, c'était un premier type d'explication que donne le Rav Margaliot. On ne pouvait pas, au niveau de la Mishnah, avoir un traité du Talmud qui traite de Hanouka, ça aurait été subversif, puisqu'on était sous l'occupation romaine. Alors on a noyé cela dans le corps de la Gemara, dans le corps du commentaire de la Mishnah. Bon. Mais en fait, il y a deux autres ordres de raisons que nous allons un peu étudier rapidement, et ensuite je vous donnerai la lecture de la Gemara très rapidement. C'est ceci. La première raison, c'est que la victoire des Maccabées, la révolte des Maccabées, et donc la victoire des Maccabées contre les Grecs, s'est faite dans des conditions exceptionnelles, qui a fait que une révolte d'ordre spirituel, parce que les Grecs voulaient imposer leur conception de l'intelligence humaine à l'intelligence juive. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Cette révolte a été menée par des Kohanim. Vous savez très bien que la famille des Hashmonaïm était des Kohanim. Or, de cette révolte est né un royaume, donc une autorité politique, et ce fait-là a violé un des principes fondamentaux de la Torah. C'est-à-dire que les hommes qui sont voués au pouvoir sacerdotal n'ont pas le droit d'avoir le pouvoir politique. Et les hommes qui sont voués au pouvoir politique n'ont pas le droit d'avoir le pouvoir sacerdotal. C'est-à-dire le roi ne peut pas être prêtre, le prêtre ne peut pas être roi. Parce qu'il y a là deux fonctions de souveraineté qui sont radicalement différentes, et ce cumul des fonctions fonderait une théocratie, et il y a une interdiction absolue de théocratie dans la Torah. Et j'entends bien vos questions non formulées, puisqu'il y a une légende, comme quoi le régime politique de la Torah serait une théocratie. Faites bien attention à ça, c'est une ignorance totale et absolue. La théocratie, ça veut dire le pouvoir des prêtres, le pouvoir politique des prêtres, c'est ça la théocratie. Or la Torah interdit radicalement ce genre de choses. Ça n'a existé que dans les autres empires. Prenez par exemple, dans la civilisation issue de Rome, vous avez eu deux formules. Dans l'Empire d'Orient, c'était le roi qui était le grand prêtre. L'Empire d'Orient, vous voyez ce que c'est? Byzance, tout ça, Ken. Dans l'Empire d'Occident, c'était le prêtre qui était le roi, à Rome. Vous avez encore des traces de cela. Dans certaines églises nationales, où, par exemple, la reine d'Angleterre est le chef de l'église anglicane. Oui, alors, dans ces deux formules, ça a été au contraire le propre de la civilisation romaine, à des titres divers. Tandis que dans la société d'Israël, il y a quatre types de pouvoirs qui doivent être les quatre exclusifs l'un des autres. Chacun avec ses prérogatives, ses droits et ses devoirs, et les limites de ses droits et de ses devoirs. C'est le pouvoir juridique, le pouvoir des juges, le pouvoir politique, le pouvoir des rois, quelle que soit la forme de gouvernement. Il s'agit de Malchut toujours. Le pouvoir sacerdotal, le pouvoir des prêtres, et le pouvoir prophétique, celui des prophètes. De ça, nous parlerons dans notre étude. Et il y a quatre types d'institutions qui, ensemble, forment l'unité de la souveraineté d'Israël. Mais jamais le roi ne peut être prêtre, jamais le prêtre ne peut être roi. Sauf en cas d'urgence, comme cela s'est passé en ce temps-là, au moment de la révolte des Maccabées, puisqu'il s'agissait d'une révolte d'ordre spirituel, alors c'est sorti des Kohanim. Tant que c'était l'indépendance politique qui était écrasée, bon, on faisait le gros dos, galoute, hein, même si cette galoute était en Eretz Israël même. Tandis que, à partir du moment où c'était l'indépendance spirituelle qui a été menacée par le conflit au niveau du Sehel, au niveau de la prétention de substituer la mentalité grecque, et je parlais de la philosophie tout de suite, à la mentalité juive, et donc d'héléniser les juifs, alors là, la révolte est venue des Kohanim. Et donc, c'est pas par hasard, c'est des Hashmonaïm que cette révolte s'est créée. Alors, en cas d'urgence, provisoirement, on a le droit d'installer un gouvernement provisoire, et ensuite, cette famille des Kohanim devait rendre le pouvoir au pouvoir politique. Est-ce que c'est clair? Or, il s'est installé une théocratie, et c'est la raison pour laquelle cette dynastie des Hashmonaïm, très rapidement, s'est dégradée, s'est dénaturée, elle est devenue sadducéenne d'ailleurs, et que ça a été la fin du Beit Sheni. Ça veut dire que la tradition talmudique savait que cette réussite au point de départ, cette victoire au point de départ, était devenue un échec. Et par conséquent, il y avait une sorte de istaïgout, réticence vis-à-vis de tout ce qui touchait l'aspect politique de Hanouka, parce qu'il avait échoué. L'aspect religieux de Hanouka avait réussi, et irréversiblement. Mais l'aspect politique s'était dénaturé, s'était dégradé. Ça avait mené à ces dynasties de type sadducéen, qui finalement, dans leur conflit propre, ont fait venir les Romains en Judée. Vous apprendrez ça en histoire. Okay? Et donc le Beit Sheni s'est effondré parce que ce qui avait été quelque chose de bien, disons, à l'origine, la révolte des Maccabées au niveau spirituel, s'était dégradé en régime politique anti-Torah. C'est la première réponse pour laquelle il y a une sorte de réticence de raconter l'histoire des Maccabées une fois qu'elle avait échoué. Mais de commémorer la victoire où ça avait réussi, ça oui, c'est rentré dans les mitzvot. Vous avez compris le problème ? Bon. La deuxième raison est encore beaucoup plus grave. Et elle se relie d'ailleurs à la chute de la dynastie des Maccabées au temps de Rome. C'est que ces dynasties des Maccabées sont devenues, qu'on pourrait dire expansionnistes, comme on dit aujourd'hui, impérialistes, si vous voulez, ils ont conquis de force le peuple des Iduméens et les ont convertis de force à leur conception du judaïsme. Et ça a violé une deuxième grande règle de la Torah, que premièrement, on ne convertit pas de force, premièrement, et que deuxièmement, et on ne convertit pas un groupe en tant que groupe. On ne convertit que des individus. De cela, nous pourrons parler d'ailleurs dans d'autres études. Vous voyez comment ça s'est dénaturé. Ça veut dire que devenue sadducéenne, par la suite, la dynastie dégradée des Hasmonéens, je ne parle pas des premières générations, Matatiaou, Yehuda Maccabi et ses frères, mais par la suite, à partir de Alexandre Janet, etc., devenu sadducéen, ce royaume, et là, les pharisiens sont rentrés dans la clandestinité, c'est que le pouvoir était entre les mains des sadducéens, était devenu une nation comme les autres, juive d'origine, mais hellénisée. Et alors avec les mêmes comportements. Et donc, ce deuxième principe de la Torah a été violé de façon très grave, parce que ce que vous apprendrez par la suite, c'est que l'identité chrétienne est née de cette rencontre entre un milieu iduméen converti au judaïsme et homme. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans la typologie traditionnelle, la suite de Esav, Edom, c'est Rome. Historiquement, l'identité chrétienne est née de cette alliance des iduméens et des romains contre les juifs. Et effectivement, les premiers milieux chrétiens sont nés des iduméens convertis au judaïsme, c'est-à-dire des descendants d'Ésaü convertis au judaïsme, de force par les descendants des Hasmonéens, et c'est de là que sont sortis les premiers chrétiens. Bon, c'est une chose qui est peu connue, mais vous comprenez la gravité de raison de plus pour que les talmudistes n'aiment pas ces gens-là. Et vous vous rappelez d'ailleurs qu'au moment de la naissance du christianisme, au moment de l'arrivée de Rome à Jérusalem, la royauté juive était aux mains des Iduméens. Vous vous rappelez de Hérode ? Hérode était Iduméen. Vous voyez donc ce qui se passe de toute façon. Par conséquent, de ces deux points de vue-là, si vous voulez, et théologiquement et politiquement, finalement, ce qui avait commencé à Hanouka de façon positive s'est dégradé et était devenu un échec. Et donc, blackout là-dessus dans le Talmud, on ne retiendra que l'aspect de la révolte spirituelle et de la victoire spirituelle. Un exemple. Il y a une discussion dans la Gemara de Shabbat, quelques pages avant cette page, de savoir qu'est-ce qu'on doit commémorer à Hanouka. Est-ce que quand les soldats des Maccabées sont entrés dans le temple, ils avaient des torches allumées, les flambeaux, comme on dit, sur leurs javelots, ou bien on va commémorer le fait qu'il n'y avait plus d'huile pour réallumer le candélabre et que par miracle on a trouvé une petite fiole qui a brillé 8 jours. On a discuté, on a décidé, non, ça on va commémorer, et pas ça. Pourquoi ? Parce que ça reste éternel, ça réussit éternellement, la fiole d'huile. Tandis que ça, les javelots, la retraite au flambeau, ça a mené à la dégradation politique dont j'ai parlé. Vous voyez le problème ? On aurait très bien pu décider, le Bedin de Matatiaou aurait décidé, et a décidé, Hanouka, ça sera 25 Kislev, mais la victoire contre les Grecs, mais ensuite la halakha aurait pu établir, et qu'est-ce qu'on commémore, et comment on commémore, pas en allumant une Hanoukia, en allumant et en faisant des retraites au flambeau, pour se rappeler que quand les soldats des Maccabées sont entrés dans le temple, c'était le jour de la fête des Lumières, alors ils avaient mis des Lumières sur leurs jambes. Parce que nous verrons que la date de la fête des Lumières précédait tous ces événements. Et ce qui était notre problème. C'était de toute façon Hanouka. Le 25 Kislev, c'est Hanouka. Alors, c'était Hanouka. Et à ce moment-là, on s'est dit, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on commémore à Hanouka ? À partir de maintenant, on commémore la victoire contre les Grecs. Mais c'était Hanouka depuis le premier Rome, le 25 Kislev. Ça, on apprendra d'autre part. De la même manière que dans tous les cas, c'est Pessah le 14 Nissan. À partir de la sortie d'Égypte, on a commémoré la sortie d'Égypte à Pessah. Ça y est ? Et alors, bon, tout ça, on apprendra d'autre part en détail. Et je vous ai dit souvent, quand un problème est difficile dans un sens, mettez-le dans l'autre, c'est clair. Et nous verrons qu'effectivement, depuis toujours, chaque fois qu'il y a la fête de l'inauguration par la lumière, ça se fait le 25 Kislev. Et jusqu'au temps de la révolte contre les Maccabées, il n'y avait pas encore d'événement historique correspondant à cette fête. Mais elle était connue depuis le premier homme, que le 25 Kislev, c'est la fête de la réinauguration de la lumière. Même que chez les païens, ça s'appelle le solstice d'hiver. C'est le jour de l'année où la lumière recommence à grandir. Et les chrétiens ont mis ça le 25 décembre. De Kislev, ils ont gardé au moins le 25. Et alors, vous savez qu'ils allument des lumières sur leur sapin de Noël ? Bon. Alors, de tout ça, on parlera dans d'autres études plus en détail. Alors, voilà ce que je voulais signaler. Donc, première raison, enfin, c'est déjà la deuxième, mais première des deux raisons que je voulais vous donner, pour lesquelles nous n'avons pas de mise par écrit dans le Talmud de l'histoire des Maccabées, eh bien, c'est parce qu'en fin de compte, l'aspect historique s'est effondré. Et on a gardé que l'aspect de commémoration religieuse. C'est clair ? Bon. Mais là, j'en arrive à une raison beaucoup plus profonde encore, qui a été mise en évidence par un des commentateurs contemporains du Maharal, qui vient de mourir il y a quelques années, qui était le Rav Utner, dans un livre qui s'appelle « Le Pachad Yitzhak », et a mis cela en évidence de la manière que je vais essayer de vous expliquer, en se basant d'ailleurs sur le texte de la Gemara, nous allons lire un peu. Dit ceci. Et au fond, qu'est-ce que les Grecs ont voulu annuler d'Israël ? Pas la Torah écrite qu'on prendrait comme une religion, une parmi les religions, une parmi les cultures, mais dans les catégories de la vision grecque de l'intelligence. Et rappelez-vous ce qu'on a déjà un peu appris dans les cours, d'un humanisme absolu au niveau de la philosophie. Négation de révélation, c'est la force de l'intelligence humaine, et il y a aussi un génie hébraïque de l'intelligence humaine. ce génie hébraïque de l'intelligence humaine comme tel, au niveau du génie grec de l'intelligence humaine, on va le faire entrer dans le panthéon de l'intelligence universelle. Et on va annuler Israël des Hébreux, Israël des prophètes. On va en faire une culture parmi les autres cultures grecques, au niveau de l'intelligence humaine. Et ça sera une grande culture, on va traduire la Bible. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont traduit la Bible en grec, et ils en ont fait un des livres de la sagesse humaine, dans la traduction grecque. Une chose qui est peu connue, c'est que la décision de la traduction en grec de la Bible a été imposée aux rabbins. C'est la raison pour laquelle elle a été imposée par le pouvoir politique grec. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle la Bible des Septante. Et vous connaissez ça. La Vulgate, c'est la traduction latine. La traduction grecque s'appelle la Bible des Septante. Septante, ça veut dire 70. Et ils ont imposé au Sanhédrin, les 70 sages du Sanhédrin, de traduire la Bible de l'hébreu en grec pour avoir une version autorisée. C'est pourquoi elle s'appelle la Bible des Septante. Des 70 traducteurs qui n'étaient pas autre chose que le Sanhédrin. Et comment ils ont fait pour être sûrs qu'on ne les trompait pas? Ils ont enfermé chaque rabbin dans une pièce à part jusqu'à ce que la traduction soit finie. Alors le Midrash dit est arrivé un miracle. Ils ont été inspirés de traduire faux de la même manière. Mais il y a une blague juive à propos de ce midrash. Non, mais c'est vrai. Quand vous lisez la Bible en traduction, vous savez que c'est un autre livre. On a déjà eu des petits exercices. Bon. Alors, les rabbins ont traduit en grec de manière que les Grecs ne comprennent pas ce qu'il y avait dans l'hébreu. Mais les Grecs se méfiaient. Alors, ils les ont enfermés chacun dans une chambre pour être sûr qu'ils ne communiqueraient pas entre eux. Ils ont été inspirés. Et chaque fois qu'il fallait traduire à la manière des Grecs, ils ont traduit de la même manière, grec. Alors la blague là-dessus, c'est que pour être sûr que les rabbins soient d'accord, il faut les enfermer chacun séparément. Bien. Bien. À notre problème, et à ce moment-là, on a considéré d'ailleurs cela comme une catastrophe, et le jour où ça a été imposé que la Bible serait, enfin la Torah serait traduite en grec, il y a eu 3 jours de jeûne dans la communauté juive, c'est une chose que vous ne savez peut-être pas. Donc, et vous savez ce que finalement les goïms ont fait de la Bible traduite, ils ont fait le christianisme. Donc. Alors vous voyez quel était l'objet du conflit. Donc, les Grecs ne voulaient pas annuler la sagesse juive, ils voulaient la dénaturer en la remettant au niveau des sagesses humaines à la grecque. En faire un livre. Est-ce que c'est clair? Et regardez jusqu'où c'est allé. Okay. C'est que finalement, ce livre qui était le livre des Juifs, parce qu'ils étaient les Hébreux, est connu maintenant dans la culture universelle comme étant le livre des Goïms. Et on se demande pourquoi les Juifs le réclament. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ils ont réussi. Que la Bible, eh bien, c'est la littérature chrétienne. Remarquez cela, okay. ça appartient au goyim. Okay. Et je veux dire, une des expériences dans mon expérience que j'ai eue, c'est quand j'étais l'élève de Yankelevitch dont je vous ai parlé. Un jour, il est venu à Alger faire un séminaire, et donc j'étais son élève pendant quelques jours. Et alors, il y a longtemps, du temps où j'étais étudiant à Yasmin. Et alors, il citait la Bible en grec à bout portant. Et les évangiles par cœur, en grec. Alors moi, fier d'un Européen sachant la Bible en grec, je lui ai posé une question sur le verset hébreu. Vous n'avez pas un mot d'hébreu. Imaginez comment c'est arrivé. Un philosophe d'origine juive citant la Bible en grec et ne connaissant pas la Bible en hébreu. Regardez ce que les Grecs ont réussi. Ça va. Vous voyez jusqu'où ça va. Et vraiment, ils connaissaient les évangiles par cœur dans le texte grec. Mais si tu es un psaume en hébreu, de quoi tu parles? La Bible, c'est le livre de la civilisation occidentale. Alors on commence par dire judéo-chrétien, après on dit chrétien, et gamin, nous c'est fini. Vous voyez comment ça marche? Bon. Et ça va très 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 loin. Au point que les juifs eux-mêmes lisent la Bible, beaucoup de juifs à l'université lisent la Bible, et ils vous le disent avec une naïveté déconcertante, comme si c'était un des livres de la sagesse humaine. Celui-là, c'est celui des Hébreux, Homère, c'est celui des Grecs. On en est arrivé là. Et c'est pourquoi je vous dis que dans la société juive contemporaine, et en particulier à Israël, cette histoire n'est pas finie. Et c'est une des raisons pour laquelle elle n'est pas encore écrite. Bon, mais je reviendrai à ça tout à l'heure. Or, l'intention dans ce conflit de la société grecque par rapport à la société judéenne, par rapport à la société juive, n'était donc pas de s'opposer à la Torah comme livre. Elle était d'annuler la Torah orale. C'est clair ? Vous avez bien compris la différence maintenant. C'est pourquoi les rabbins ont pris la décision suivante. Si on met par écrit l'histoire de Hanouka, c'est donner raison aux Grecs. Ce serait la victoire des Grecs. Il faut que tout ce qui concerne Hanouka reste oral. C'est cela le signe de la victoire des Juifs. Bon, Bichara, enfin, en quelques phrases, je vous dis un peu ce que le Rav Woutner a expliqué à ce sujet. On n'a pas beaucoup de temps, mais c'est bien de réfléchir à cela. Et ensuite, je vous lis le texte tout à l'heure. C'est clair ? C'est-à-dire que c'est pas comme ça par hasard qu'il n'y a pas eu occasion d'eux faire un traité ou un livre écrivant l'histoire de Hanouka. Si on avait mis par écrit l'histoire de Hanouka, c'était avoué que les Grecs avaient vaincu. Je vous donner un petit exemple, ça va vous faire peut-être étonner. Vous avez bien compris cela ? La Gemara dit de façon très claire, le miracle de Hanouka n'a pas été donné à être écrit. Il doit rester oral. Et donc le Rav Woutner, à travers le Maharal, l'explique de cette manière, parce que ce que les Grecs voulaient extirper d'Israël, c'était la capacité de Torah orale. Vous avez des livres ? Très bien. C'est des livres, et on va les traduire, et ils vont entrer dans la bibliothèque d'Alexandrie. Enfin, ils vont entrer dans la bibliothèque universelle, comme nous. Nous avons des livres, vous avez des livres. Pas plus, pas moins. Et c'est des grands livres, d'ailleurs, on va les prendre. Et les autres. כן. נכון, זה פשוט ספר חיצוני. Bon, là, une question qui a été posée sur les livres apocryphes, mais je vais simplement répondre d'un point de vue historique. Dans tous les cas, ça peut pas faire partie de la Bible, du Tanakh.